Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que le faiseur de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 25 janvier 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Téhéran attache une grande importance à la consolidation des liens avec Alger, a souligné le président iranien Ebrahim Raisi. Le développement des relations avec les pays voisins constitue la priorité de Téhéran, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. La résistance yéménite annonce avoir mené une opération de grande envergure contre les positions des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Et au Burkina Faso, l'armée affirme avoir pris le pouvoir. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que Téhéran attache une grande importance au développement des relations avec l'Algérie, tout en appréciant l'intérêt de l'Algérie à développer ses relations avec Téhéran. S'exprimant lors d'une rencontre pour recevoir les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Ebrahim Raisi a déclaré que le niveau actuel des relations économiques entre les deux pays n'est pas à la hauteur des excellentes relations politiques entre Téhéran et l'Algérie. J'espère qu'au cours de la nouvelle législature, en s'appuyant sur les relations cordiales antérieures entre les deux pays, tous les efforts seront déployés pour améliorer le niveau des relations politiques, économiques, commerciales et culturelles entre les deux pays, a-t-il déclaré. Se référant à la brillante résistance du peuple algérien au colonialisme français, Raisi a déclaré « Les colonisateurs n'ont jamais abandonné leur esprit colonial et poursuivent toujours leurs objectifs coloniaux avec une nouvelle approche et bien sûr, le peuple algérien maintient toujours son esprit de résistance. » S'adressant au nouvel ambassadeur, le président Raisi a déclaré que la République islamique d'Iran attache une grande importance au au développement des relations avec l'Algérie. Lors de cette rencontre, le nouvel ambassadeur d'Algérie à Téhéran a déclaré « Nous pensons que le niveau actuel des relations économiques entre les deux pays n'est pas à la hauteur des excellentes relations politiques et je ferai de mon mieux pour améliorer le niveau des relations économiques et commerciales de mon pays avec l'Iran en tant que partenaire économique important. Je veux vous assurer que les positions et politiques de principe de l'Algérie, y compris en faveur de la cause palestinienne, pour laquelle nous avons payé des coûts exorbitants, se poursuivront sérieusement, a-t-il conclu. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Nabil Abdollahian, a déclaré que la promotion des relations avec les pays voisins est la principale priorité de l'approche politique du pays, ajoutant que le gouvernement iranien est déterminé à optimiser les relations avec tous les pays voisins. La promotion des relations avec les pays voisins est une priorité fondamentale dans les initiatives diplomatiques de l'Iran. Cette priorité n'a pas été réalisée jusqu'à présent pour diverses raisons, mais le renforcement de la coopération et de l'interaction avec les voisins a été l'une des priorités fondamentales depuis l'inauguration de la nouvelle administration iranienne, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Nabil Abdollahian. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Les forces armées yéménites ont annoncé lundi soir avoir mené une opération de grande envergure en riposte à l'escalade des forces de l'agression saoudo-émirati et leurs crimes à l'égard du peuple yéménite. L'opération Ouragan du Yémen 2 a visé la profondeur des territoires saoudiens et émirati, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, et de préciser la base aérienne d'Aïza Zafra et autres cibles sensibles dans la capitale de l'ennemi émirati, Abu Dhabi, ont été visées par un nombre de missiles balistiques Zulfikar. Des sites vitaux importants à Dubaï ont été visés par un nombre de drones téléguidés de type Samad 3, a-t-il ajouté. Les bases militaires situées dans la profondeur du sol saoudien dans la région de Sarwa et d'autres régions ont été pilonnées par un grand nombre de drones téléguidés de type Samad 1 et RACF 2, poursuit le communiqué. Tout en soulignant que des sites vitaux à Jizan et Assir ont été visés par une salve de missiles balistiques, le général Sari a confirmé que l'opération avait atteint ses objectifs avec une grande précision. La Syrie condamne les crimes israéliens contre le peuple palestinien. La Syrie a condamné avec les termes les plus sévères les actes menés par les forces d'occupation israéliennes qui démolissent les propriétés du peuple palestinien, réitérant son appel à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités de protéger le peuple palestinien et de mettre fin immédiatement aux crimes israéliens. Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que la Syrie condamne avec les termes les plus sévères les actes menés par les forces d'occupation israéliennes qui démolissent les propriétés du peuple palestinien partout sur les territoires palestiniens occupés, dont la démolition de la maison de la famille de Saliha dans le quartier de Sheikh Jarrah à Al-Quds, occupé, et l'arrestation des membres de la famille. Le ministère syrien des Affaires étrangères a fait savoir que la Syrie incite la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien, à le protéger, à appliquer les résolutions de la légalité internationale relatives à la cause palestinienne et à mettre immédiatement fin aux crimes israéliens. La Russie accuse l'OTAN d'exacerber les tensions en déployant des forces en Europe orientale. Le Kremlin a accusé l'OTAN et les États-Unis d'exacerber les tensions en décidant de déployer des navires et des avions de combat en Europe orientale sur fond de crainte occidentale d'une attaque russe contre l'Ukraine. Il a dénoncé une hystérie en Europe après que les annonces sur une supposée invasion russe imminente de l'Ukraine se sont multipliées ces dernières semaines. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a par ailleurs jugé très élevé le risque d'une offensive de Kiev contre les séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien, où les deux camps se font face depuis 2014 dans un conflit qui a fait plus de 13 000 morts. Effectivement, les autorités ukrainiennes concentrent un niveau considérable de forces et de moyens à la frontière avec les républiques séparatistes pro-russes, a précisé M. Peskov, estimant que cette situation suggère la préparation d'actions offensives de la part de Kiev. Coup d'État au Burkina Faso. L'armée affirme avoir pris le pouvoir. L'armée du Burkina Faso affirme avoir pris le pouvoir par un coup d'État. L'annonce a été faite à la télévision publique par un officier de l'armée qui précise que le gouvernement et le parlement sont des dissous. L'endroit où se trouve le président Roque Kabore n'est pas clair, mais l'officier déclare que toutes les personnes détenues se trouve dans un endroit sûr. Ce coup d'État survient un jour après que les troupes ont saisi des casernes et que des coups de feu ont été entendus dans la capitale. Auparavant, le parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, avait déclaré que M. Kabore, un ministre, avait survécu à une tentative d'assassinat. Eh bien, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le développement des relations avec les pays voisins, c'est la priorité fondamentale de l'Iran, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le développement des relations avec les pays voisins est la première priorité de l'approche politique de Téhéran, ajoutant que la nouvelle administration est déterminée à optimiser les relations avec tous les voisins. La promotion des relations avec les pays voisins est une priorité fondamentale dans les initiatives diplomatiques de Téhéran. Cette priorité n'a pas été réalisée jusqu'à présent pour diverses raisons, mais le renforcement de la coopération et de l'interaction avec les voisins a été l'une des priorités fondamentales depuis l'inauguration de la nouvelle administration iranienne, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Avec la priorité de l'interaction et du dialogue avec les États voisins, a-t-il ajouté, le gouvernement iranien s'efforce de poursuivre et d'atteindre sérieusement un tel objectif en maximisant les capacités existantes et en optimisant les relations bilatérales. Il a noté que la conférence a suscité l'espoir que les grandes capacités des voisins devraient être utilisées pour obtenir le maximum d'avantages pour parvenir au développement durable de la région et à régler certaines des crises existantes. La tâche la plus importante pour l'Iran est de poursuivre une politique axée sur le développement des liens avec les voisins, sans la présence déstabilisatrice de pays extra-régionaux, a déclaré Damir Abdollahian, soulignant qu'une telle politique qui cherche à promouvoir la sécurité pour relever ce défi à moyen et long terme. Dans une autre partie de ses propos, le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué des pourparlers en cours dans la capitale autrichienne pour la levée des sanctions imposées à Téhéran, affirmant qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune discussion directe entre les délégations iraniennes et américaines. La partie américaine envoie des messages de diverses manières, appelant à un niveau de négociation directe avec l'Iran, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, notant que Téhéran est engagé dans des pourparlers avec le groupe de pays de 4 plus 1 et a des contacts non papiers avec les États-Unis par l'intermédiaire d'Enrique Mora, chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne et chef de la commission mixte de l'accord nucléaire officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint. Amir Abdollahian a reproché aux 3 pays européens faisant partie du plan global d'action conjoint de n'avoir présenté aucune initiative nouvelle de tournée vers l'avenir et constructive lors des pourparlers de Vienne, alors qu'elles se sont efforcées ces dernières semaines d'adopter une attitude rationnelle et constructive. Même la France ne joue pas le rôle d'un mauvais flic dans les négociations de Vienne, a-t-il conclu.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors on se souvient très bien de cette attaque barbare des mirages français, une fête de mariage au Mali faisant 19 morts chez les civils. Et donc voilà que la résistance malienne a décidé quelques mois plus tard de passer à l'acte et donc une base importante militaire française au Mali a été prise pour cible d'une roquette faisant un mort chez les militaires français et plusieurs blessés. Alors, cette colère des Maliens qui semble être très contagieuse, car beaucoup de pays voisins comme Burkina Faso et Niger ont suivi cet exemple. Alors la France, qui n'a absolument rien donné au Mali, si ce n'est que neutraliser militairement et économiquement ce pays, donc il est temps qu'elle se retire donc complètement du Mali. Nous allons voir la perspective de la résistance malienne à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
2021, les mirages de 1000 Français bombardaient sauvagement une cérémonie de mariage à Bounti, au centre du Mali, quitte à massacrer, selon les chiffres officiels, 19 civils. À l'époque, personne n'aurait cru que cette situation irait très rapidement changer et d'une posture exclusivement inédite. Personne n'aurait cru que quelques mois plus tard, les forces d'occupation françaises iraient non seulement se voir contraintes de retirer leurs troupes d'une grosse partie des régions maliennes, mais encore que l'État malien et son armée iraient même plus en avant en mettant en cause les accords militaires Mali-France. Le Mali a frappé fort et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la résistance malienne contre l'occupation française ne s'arrête pas là et c'est cette fois-ci, c'est en se prenant à la principale base militaire de la France au Mali que le pays sahélien prend sa revanche. Un tir de roquette a visé la base militaire française située à Gao dans le nord du Mali ce samedi soir. Selon un rapport du média français France 24, la base militaire française de Gao au Mali a été la cible. d'une attaque à la roquette. C'est la principale base militaire de la France au Mali. Un militaire français a trouvé la mort au Mali ce 22 janvier dans cette attaque. Il s'agit d'un membre du 54e régiment d'artillerie de IRS. 9 autres militaires ont été légèrement blessés. C'est la première fois qu'une attaque a lieu contre une base française au Mali depuis leur arrivée il y a environ 8 ans. D'ici les semaines à venir, c'est la perspective d'une guerre d'attrition parsemée d'attaques anti-Barkhane qui attend de celle-ci, et cette attaque contre la base française à Gao n'est que le premier pas de cette perspective anti-Barkhane.
À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe et à mon collègue M. Hugo. Toujours un plaisir de vous retrouver.
Merci, tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour, comme vous l'avez dit, à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert de questions internationales qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour à vous, à toute l'équipe et bien sûr à Luc Michel.
Voilà, alors nous allons entrer dans le vif du sujet en m'adressant à M. Luc Michel. Alors, une foule monstre dans les rues des principales villes du Mali. Cette attaque à la roquette à une base militaire française. Donc, on voit très bien que, comme on dit, la population malienne préfère de crever de la faim plutôt que de se soumettre à l'occupation française.
Écoutez, ce qui a tout changé, c'est que nous sommes entrés dans un nouveau cycle géopolitique en Afrique. Jusque maintenant, il y avait un huis clos entre les pays africains pris séparément chacun et les forces armées françaises. Mais aujourd'hui, le bloc de l'Est, principalement la Russie, mais aussi l'Iran, est arrivé en Afrique et elle apporte de l'oxygène géopolitique, elle apporte de l'oxygène diplomatique, elle apporte de l'oxygène militaire aux patriotes africains. Ajoutons qu'il y a un double phénomène. D'une part, un rejet massif des Français par les masses panafricaines, et de l'autre côté, l'arrivée au pouvoir d'une jeune génération d'officiers qui sont les héritiers de Sankara et de Kadhafi. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir au Mali et que connaît Assimi Goïta et qui ont engagé le Mali aux côtés de l'Algérie, de la Russie et de l'Iran. Et également, c'est eux qui hier viennent de renverser le sous-préfet français, le président Marc Rocamoré au Burkina Faso. C'est un changement géopolitique fondamental. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les patriotes africains, les dirigeants, les officiers, ils sont soutenus par de larges masses africaines. Samedi, dans toute l'Afrique, mais aussi en plein Paris et en plein Bruxelles, les panafricanistes ont défilé. Ils ont dit « Nous ne voulons plus de la France. France dégage. » C'est un symbole. Il y a quelques semaines est sortie une nouvelle histoire de la France-Afrique qui s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir aux éditions du Seuil. » Eh bien, aujourd'hui, nous assistons en direct à l'agonie de l'Empire français.
Merci, M. Luc Michel, pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Philippe Hugon. Alors, depuis son arrivée au Mali, la France, depuis 8 ans, justement, la France n'a pas tardé de planter son couteau du terrorisme au Mali, également dans la région. Et la population malienne a bien compris cela. Que pensez-vous?
Oui, alors je dirais la chose suivante, c'est que nous sommes aujourd'hui en 2022 et la question est la suivante, que fait la France en 2022 dans ces régions-là, au Sahel, au Nigeria, enfin dans un certain nombre de pays africains? Je crois que la période colonialiste est bien finie, mais qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris la nouvelle équation de la donne de la géopolitique. Il faut savoir que parmi tous les Africains, et cette nouvelle génération de dirigeants qui arrivent au pouvoir maintenant, ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont une certaine expérience, et la France aujourd'hui n'a plus rien à faire au Sahel. La France aujourd'hui n'a plus sa place, et il est temps que nous quittions cette région. On aurait déjà dû le faire depuis plusieurs années. Parce que le problème, quand on part dans un pays comme ça pour, en théorie, juguler le terrorisme, mais on n'arrête pas le terrorisme de cette façon. Au contraire, on crée la colère, la haine, le ressentiment, et nous créons le terrorisme. on ne peut pas en vouloir aux Africains aujourd'hui de vouloir retrouver leurs dirigeants et de pouvoir retrouver leur propre destin avec leurs propres dirigeants.
Philippe Hugo.
Il faut comprendre que cette époque est bel et bien révolue et qu'il faut se retirer. D'autant plus que nous n'avons plus les moyens financiers d'intervenir quoi que ce soit. Vous savez, la plupart des banques dans le monde sont en faillite. La plupart des pays occidentaux sont en faillite financière. Alors si on reste là-bas, c'est justement pour essayer de piller les ressources naturelles qui ne nous appartiennent pas.
Donc, Philippe Hugon.
C'est temps que l'ONU condamne cette occupation et que nous nous retirons de ce pays.
Absolument. Mais Philippe Hugon, vous ne pensez pas que la France, évidemment, nous sommes d'accord que la France doit quitter l'Afrique, mais la France ne va certainement pas renoncer à ces richesses qui existent en Afrique, et surtout au Mali. Pendant ces 8 années, ils n'ont pas hésité de piller la richesse malienne. C'est pour ça que la jeune génération refuse ça. Oui.
Moi je pense que cette nouvelle génération de politiciens africains sont tout à fait conscients que les pays occidentaux, dont la France, sont là pour voler les richesses naturelles du Mali. On n'est pas là pour apporter la démocratie, on est là pour piller. Donc la question se pose d'une autre façon. Donc il est temps aujourd'hui que la communauté internationale condamne la France pour ses actes de pillage depuis des dizaines d'années maintenant en Afrique.
Luc Michel, votre prise de position à les propos de M. Hugon quand il parle que la France n'est pas prête à renoncer à ses richesses et la communauté internationale devrait donc condamner la France. Est-ce qu'elle va le faire?
Écoutez, en 1960, les indépendances africaines ont été volées par Londres, par Bruxelles et par Paris. À Paris, ça s'appelle la France-Afrique. C'est le mécanisme mis au point par De Gaulle et Focard. Et depuis, la France reste une puissance parce qu'elle pille l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un fait qui se termine. Maintenant, il ne faut rien attendre de la communauté internationale. Ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est le bloc américano-occidental. Et précisément, les Américains ont fait depuis Giscard d'Estaing de la France le gendarme de l'Afrique et Trump a ajouté le shérif de l'Afrique en 2017. La récompense de la France pour garantir l'ordre occidental en Afrique, c'est de maintenir les pillages, les préventes économiques. Par exemple, la France exporte des centrales nucléaires avec un État, mais la France ne produit pas sur son territoire une once d'uranium, contrairement par exemple à la Russie ou aux États-Unis. Il faut donc comprendre ça. La France, elle existe encore comme puissance au Conseil de sécurité des Nations Unies, en continuant à piller en Afrique, donc elle n'est pas prête à partir. En particulier, en 2019, il y a un théoricien français, c'est l'amiral Koldefi, c'est un des plus grands stratèges français. Il a dirigé le porte-avions Charles de Gaulle, et maintenant il dirige le service des relations extérieures de la marine française. Il a proposé dans un livre qui s'appelle « Amiral » un plan de redéploiement de l'impérialisme français. Il veut que la France soit une grande puissance maritime appuyée sur tous les petits territoires qu'elle contrôle sur les 6 océans du globe, ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Mais, comme le terme le dit bien, les confettis de l'Empire, ce n'est pas de population, pas d'industrie, pas de richesse. Il faut donc que la France garde comme le cœur de son empire ce précaré français dont elle ne veut pas se débarrasser depuis 60 ans. Lorsqu'on dit de la France-Afrique que c'est l'empire qui ne voulait pas mourir, nous assistons aujourd'hui à un nouveau soubresaut de cet empire.
Luc Michel, ce qui a commencé à inquiéter les puissances occidentales, surtout la France au Mali, c'est bien la Russie. La Russie qui s'est rapprochée du Mali en l'aidant de se débarrasser de la puissance française. Est-ce que vous êtes d'accord?
Écoutez, à partir de 2015, les Américains ont constaté, c'est leur terme, que les Russes étaient de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. C'est la politique de Lavrov en diplomatie et de Poutine en géopolitique. Depuis, évidemment, la Russie s'est implantée pays par pays. Elle a commencé par le Soudan, qui est la porte d'entrée lorsque vous venez du Proche-Orient, puisque les Russes venaient de Syrie. Ils sont intervenus contre les Turcs et les Américains en Libye. Ensuite, ils sont intervenus diplomatiquement aux côtés du Burundi, qui était victime d'une tentative de révolution de couleur sous le président Kourounziza en 2015-2016. Les Russes ont dit que c'était le Maïdan sur Moscou et ils l'ont empêché d'être transformé en agression internationale au Conseil de sécurité. Puis il y a eu l'engagement en Centrafrique avec les paramilitaires russes. Et enfin, maintenant, il y a les Russes qui interviennent et qui interviennent également aux Russes sont déployés auprès de l'armée mozambicaine qui fait face aux mercenaires occidentaux de General Electric, la multinationale américaine, d'ExxonMobil et des Français de Total. Ils sont en train de faire face dans un triangle vicieux aux djihadistes de Daesh. Voilà donc ce qui a tout changé là-dedans en Afrique, c'est qu'aujourd'hui les Africains ne sont plus seuls. Aujourd'hui, la Russie a été rejointe depuis 2 ans par l'Iran. Tous deux mènent dans l'Afrique une guerre hybride et qui sont en train d'offrir à l'Afrique sa liberté.
Oui. Philippe Hugon, j'aimerais beaucoup connaître votre réaction. Est-ce qu'il faut noter l'engagement politique? Est-ce que les Maliens, entre autres, comme le Burkina Faso et le Niger, qu'on voit que cette colère malienne a été donc attachée à ce pays-là, est-ce que les Africains accueillent les Russes et les bras ouverts?
Je le pense. Alors, il faut dire que depuis quelques années, aujourd'hui, on voit une résurgence de la Russie sur la scène internationale. La Russie qui s'était repliée sur elle-même après des années et des années de communisme et un grand marasme économique. Aujourd'hui, la Russie est à nouveau présente. Alors, il y a bien sûr pas que la Russie, il y a également la Chine, il y a l'Iran, il y a un certain nombre de pays qui ont décidé d'apporter une aide à un grand nombre de pays africains, pays qui d'ailleurs ont fait appel à la Russie, notamment, pour assurer leur développement économique. Et ceci, bien sûr, passe obligatoirement par une défense militaire importante. Et la Russie apporte aujourd'hui à ces pays cette défense. Et comme le disait très bien Luc Michel, et il a tout à fait raison, la Russie va apporter à un grand nombre de pays d'Afrique la liberté de pouvoir se développer à leur rythme et la liberté de développer leur propre économie, leur propre armée, leur propre conception.
Philippe Hugon, juste apporter la liberté et la démocratie, ou bien peut-être elle cherche à remplacer des puissances occidentales pour peut-être la richesse des Africains, non? Est-ce que cette question se pose?
C'est une possibilité également. Vous savez, rien ne se fait gratuitement aujourd'hui. Donc si les Russes interviennent également, c'est pour en retirer économiquement certainement des avantages, hein, notamment dans les métaux, dans le pétrole, dans le gaz, bien que la Russie est quand même un très grand pays producteur de gaz et de pétrole. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, l'équation a changé. Les États-Unis et le monde occidental n'ont plus aujourd'hui l'exclusivité en Afrique de pouvoir intervenir. Et le retour sur la scène internationale de la Russie est, à mon avis, une très bonne chose, dans le sens où ça permet de rééquilibrer les forces. Et je crois qu'en Afrique, on a besoin de ce rééquilibrage, puisque la France et bien d'autres pays, hein, même la Belgique était intervenue au Congo, notamment à une époque, bien qu'il se soit retiré il y a longtemps maintenant. Mais comment il faut que le monde occidental comprenne que cette domination sur l'Afrique est bel et bien finie et qu'il faut laisser aux Africains le choix de leur destin et le choix de se développer à leur rythme.
Luc Michel, est-ce que vous pensez que la méthode russe est préférée en Afrique, celle de la France par exemple, et quelle est la perspective de la résistance à cet égard?
Non, c'est la propagande française qui va à signe égal. Et je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question qui est insultante pour la Russie. La Russie, c'est un État-continent qui a du gaz, du pétrole, du manganèse. Lorsque l'Afrique actuellement voit l'importation de mini-centrales nucléaires russes du groupe Rosatom, les Russes arrivent avec leur uranium qui vient de Sibérie orientale, qui n'est pas pillée en Afrique. La Russie n'a jamais été un État colonialiste. En 1830, elle était déjà alliée diplomatiquement au plus vieil État africain, qui était l'Éthiopie. En 1885, le seul État qui n'a pas été conquis par la conférence de Berlin, c'est l'Éthiopie, justement, parce qu'elle a été aidée par la Russie. À partir de 1922, à la conférence de Bakou, l'Union soviétique a aidé les indépendances asiatiques et africaines. Les Africains, aujourd'hui, le savent, ils accueillent les Russes partout en libérateurs. Vous pouvez aller à Bangui, vous pouvez aller à Bamako, vous pouvez aller à Ouagadougou, vous pouvez aller dans tous les autres pays, vous voyez des forêts de drapeaux russes. Hier, samedi, donc, il y avait une grande manifestation de soutien au Mali, au cœur même de Paris. Il y avait des centaines de drapeaux russes arborés en soutien à la tâche libératrice de la Russie. Non, la Russie n'est pas un État colonialiste. Non, elle ne vient pas remplacer la France. Elle vient offrir un partenariat gagnant-gagnant aux Africains. Et on l'a très bien compris à Téhéran, puisque votre pays non plus, qui n'a non seulement pas été un État colonialiste, mais qui a été colonisé pendant des années, aujourd'hui se tient à côté de la Russie et des indépendances africaines. La Russie et l'Iran aujourd'hui, ce sont les alliés stratégiques prioritaires de ce qu'on appelle le néo-panafricanisme et des chefs d'État néo-panafricanistes comme Faustin Axon Sodera, le colonel Assimi Gonta, ou bien que des Bambasogo en Guinée équatoriale encore, tous des gens comme cela, Abiy Ahmed en Éthiopie. C'est cela qui a changé en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, les indépendances africaines, elles sont enfin possibles, 60 ans après leur vol en 1960, par la France-Afrique et le Commonwealth.
Philippe Hugon, avec les propos de M. Luc Michel, est-ce qu'on peut espérer une perspective meilleure pour les Africains?
Ah, moi, je pense sincèrement qu'il y a maintenant des perspectives, d'autant plus que je pense que dans les 5-6 ans qui viennent, nous allons connaître un véritable séisme financier, une crise d'une ampleur absolument incroyable. Et c'est malheureusement quand les États occidentaux se retrouvent dans des positions très difficiles qu'on voit émerger dans un certain nombre de pays un certain nombre de gens qui sont capables de reprendre des places dans leur propre pays afin de développer ce pays. Donc moi je suis un peu optimiste pour les années qui viennent pour ces pays, dans le sens où l'Occident, où le monde occidental n'a plus les moyens aujourd'hui financiers de pouvoir intervenir et de pouvoir imposer une nouvelle fois des dirigeants corrompus qui étaient à la solde de la France pour mieux piller leur pays et mieux avoir, je dirais, une mainmise sur ces pays. Donc pour moi, c'est une très bonne chose aujourd'hui ce qui est en train d'arriver. Puisque, comme je le disais, comme Luc Michel en a parlé, il est temps que tout ceci s'arrête et que la France se retire dans un certain nombre de pays d'Afrique, pas seulement du Mali, mais dans d'autres pays également, et arrête d'imposer ses dictats politiques. On ne peut plus continuer de cette façon-là. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et il n'est plus possible de faire comme on le faisait il y a 40 ans. Les dirigeants français, pour ça, retardent sur la réalité géographique.
Oui. Luc Michel, est-ce que vous envisagez également cette bonne perspective pour l'avenir de l'Afrique?
Oui. Ce qui se passe, c'est que le bloc américain occidental, il a une guerre de retard. Il fait la guerre classique comme on la faisait depuis 60 ans, guerre économique, guerre militaire, guerre médiatique. Mais les Russes en 2013 en Ukraine et les Iraniens en 2006 au Liban, ils ont inventé une nouvelle sorte de guerre. C'est la guerre hybride, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre multidimensionnelle. Les stratèges de l'OTAN disent que la guerre hybride russe et iranienne, c'est une guerre post-Clausewitz. Donc le général qui enseignait la guerre dans les académies militaires depuis les guerres napoléoniennes. C'est la réalité. Et aujourd'hui, les Occidentaux ont une guerre de retard et c'est la raison de leur panique. Toute la propagande sur le soi-disant groupe Wagner, toutes les tentatives de combat, tous les sabotages, toutes les révolutions de couleurs qui ne marchent plus. Tout cela, ça révèle la panique du monde occidental, parce que justement aujourd'hui, les Russes et les Iraniens ont un avantage stratégique. En Afrique, ils ont un allié, ce sont les masses panafricanistes. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, les dirigeants panafricanistes ne sont plus isolés, comme l'était Lumumba ou comme l'était Kadhafi. Aujourd'hui, les dirigeants panafricanistes sont des centaines de millions d'Africains qui les soutiennent. C'est cela qui a changé. Vous savez que je fêterai l'année prochaine mes 50 ans de vie militante engagée. J'ai vu beaucoup de défaites. J'ai vu mourir l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie, la Jamaïria libyenne. Mais aujourd'hui, en 2022, je suis enfin optimiste. La victoire est possible.
Merci, merci Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci également à M. Philippe Hugon, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'établissement et le renforcement des relations avec les pays africains est l'une des priorités de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Le processus de développement global de la coopération avec les pays africains dans différents domaines économiques, commerciaux et politiques se poursuivra avec fermeté et avec force et de est sérieux, a souligné le président Raisi. Lors d'une rencontre de lundi avec le ministre togolais des Affaires étrangères, le président iranien a déclaré que les pays africains disposent de ressources naturelles, minérales et humaines riches et talentueuses, tout en ajoutant qu'Iran cherche un développement global des relations avec les pays africains, dont le Togo, pour servir l'intérêt commun des deux nations. Déclarant que tout au long de l'histoire, les Occidentaux ont principalement cherché à coloniser et à exploiter le continent africain, et aujourd'hui ils poursuivent leurs désirs et leurs intérêts sous diverses formes, notant les efforts des peuples de ce continent pour maintenir leur indépendance sont précieux. Et leur succès dépend de l'accent mis sur l'identité nationale et culturelle, et ainsi que sur la résistance, a souligné le président Raisi. Le président iranien a ajouté « Les pays africains ont les capacités nécessaires au développement et à la prospérité. La République islamique d'Iran soutient l'indépendance, le progrès et le bien-être du peuple africain. » Le ministre togolais des Affaires étrangères a également souligné, quant à lui, que son pays souhaitait établir des relations élargies et globales avec la République islamique d'Iran. L'OMI fait confiance aux approches de Téhéran dans le processus de développement des relations et espère que les politiques de développement et de la coopération économique avec l'Afrique se renforcent à travers le partenariat mutuel, a souligné le chef de la diplomatie togolaise. Le principal assistant militaire du leader de la révolution islamique, le général de division Yahya Rahim Safavi, a déclaré que l'Iran avait adopté une politique régionale en Asie de l'Ouest basée sur des relations solides avec les États de l'Est. La politique de voisinage est devenue une nécessité régionale indéniable, a déclaré le général Rahim Safavi, s'adressant lundi à la première conférence nationale de l'Iran et de ses voisins à Téhéran. Il a affirmé que la réalisation d'une paix, d'une sécurité, d'un progrès et d'une prospérité durable sont les objectifs fondamentaux de la politique de voisinage. La politique régionale de l'Iran en Asie occidentale, sa politique orientée vers l'Est et le développement de relations globales avec la Chine et la Russie surprendront et affaibliront les ennemis. En effet, la compréhension et les intérêts mutuels, la paix durable, la sécurité, la prospérité des nations voisines et la lutte contre toutes sortes de menaces font partie des objectifs fondamentaux de la politique de bon voisinage de l'Iran, a-t-il souligné. En ce sens, le fait de conclure un pacte de non-agression de 20 ans avec l'un de nos voisins et de le faire avec les autres marque un tournant dans la réalisation d'une sécurité collective durable, a-t-il ajouté. Les puissances occidentales cherchent à saper le pouvoir de l'Iran et à obliger le pays à se rendre. Or, cette finalité échouera. L'Iran gagnera sa bataille contre les puissances arrogantes en poursuivant sa stratégie de résistance, en adoptant de nouvelles politiques de voisinage et une politique orientée vers l'Est. Les États-Unis renforcent leur base à Asakeh, en territoire syrien. Les forces d'occupation américaines renforcent leur base dans les territoires syriens et ont fait entrer des chars, des équipements militaires et des armes via le passage illégal d'Al-Walid dans la banlieue de Asakeh. Des sources locales dans la banlieue d'Al-Yaroubia ont fait savoir aux correspondants de Sana qu'un convoi des forces d'occupation américaines composé de 66 véhicules blindés, dont 35 camions frigorifiques portant à bord du matériel militaire, 25 autres transportant des chars accompagnés de 6 véhicules blindés étaient entrés dans les territoires syriens par le passage illégal d'Al-Walid venant d'Irak. Des sources ont indiqué que de nouveaux chars étaient parmi les renforts pour aider à soutenir la milice de FDS liée à l'occupation américaine dans des tentatives pour reprendre le contrôle de la prison d'Al-Sina dans la ville de Asakeh en territoire syrien. Un missile balistique a visé dans la nuit de dimanche à lundi la cité industrielle Ahad al-Masarihat dans le gouvernorat de Jizan au sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Cette frappe de la résistance yéménite est intervenue après le massacre perpétré contre la prison de Saada où plus de 70 personnes ont été tuées et 130 est blessé selon les chiffres de l'ONG Médecins Sans Frontières. Cette dernière a accusé de dimanche 23 janvier le raid aérien de la coalition d'agression saoudienne qui a bombardé cette prison alors que le régime saoudien tente de s'en disculper. L'Arabie Saoudite mène depuis 2015 avec l'aide des Émirats Arabes Unis et un certain nombre de régimes arabes une guerre sans merci contre le Yémen pour y imposer son hégémonie par personne du président contesté en fuite de Abed Rabo Mansour Hadi, ayant détruit une grande partie des infrastructures de ce pays et tué des blessés des dizaines de milliers de civils et n'est pas encore parvenu à vaincre la résistance yéménite Au contraire, en fait, la résistance yéménite se trouve en position de force. La preuve en est cette frappe menée par la résistance yéménite contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en profondeur de leur territoire. Les chefs du réseau terroriste du front Al-Nusra investissent des centaines de millions de dollars en Turquie. Des rapports de presse identiques ont révélé que les réseaux de terroristes affiliés en fait au régime de turc et déployés à Idlib sous la direction du front Al-Nusra investissent des centaines de millions de dollars en Turquie qu'ils avaient rassemblés en s'emparant des aides humanitaires. Un rapport de l'agence de presse russe Sputnik cite des sources qualifiées de bien informées dans la ville d'Idlib. Ces sources ont déclaré que dès que les aides acheminées depuis le territoire turc atteignent les zones contrôlées par le réseau terroriste Front al-Nusra figuraient sur la liste du terrorisme international, le réseau s'en empare et les rassemble dans ses entrepôts. Sous prétexte de les distribuer plus tard aux civils, mais elles disparaissent peu à peu pour apparaître plus tard sur le marché noir à des prix exorbitants qui sont partagés par les chefs du réseau et transférés sur leur compte bancaire dans des banques turques. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.